à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mardi 31 mars 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Le nouveau coronavirus continue de faire des ravages dans le monde avec plus de 38 000 morts. En Afrique, la maladie a fait 170 décès. La Mauritanie et la Tanzanie annoncent leurs premières victimes. Au Niger, l'opposant Ama Amadou, sorti de prison, appelle au respect des mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne annonce le début de sa mission militaire en Méditerranée pour faire respecter l'embargo sur les armes en Libye. Également dans cette édition du Monde d'aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le principal opposant nigérien Ama Amadou, sorti de prison hier à la faveur d'une grâce présidentielle pour cause de Covid-19, s'engage dans la lutte contre la pandémie. Lors d'un point de presse qu'il a animé ce mardi, il appelle les citoyens nigériens à respecter les mesures barrières prises pour stopper la maladie. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Je demande à mes chers compatriotes nigériens qui ont fait montre de beaucoup de compassion à mon égard de respecter ces consignes pour que nous continuions à vivre, que nous continuions à nous battre pour les idiots auxquels nous croyons.
Ce sont les premiers mots de Ama Amadou depuis sa sortie de prison hier soir. Pas un seul mot sur la situation de laquelle il est sorti, encore moins sur le climat politique, même pas de sa candidature à la présidentielle de décembre prochain.
Je sais que certains de nos compatriotes ont des doutes sur la réalité de cette maladie. Ne faisons pas de l'entêtement pour semer la désolation dans les familles de nos amis et connaissances. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un moyen politique d'endormir les gens. C'est une réalité. C'est parce qu'on aime les autres qu'il faut observer des mesures sanitaires qui ont été dictées et sur l'ensemble de la planète par l'OMS et qu'il faut prier Dieu pour qu'il nous sauve.
L'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre recouvre donc sa liberté. Il aura passé plus de 5 années hors du pays. Quelle posture il adoptera maintenant, c'est la question qui taraude à présent tous les esprits.
Je vais en confinement.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
L'Afrique intensifie ses efforts pour enrayer la propagation du coronavirus. Les restrictions varient d'un pays à l'autre sur le continent où sont recensés plus de 5300 cas et 170 morts. La Mauritanie et la Tanzanie ont déploré ce mardi leur premier décès dû au Covid-19. Eric Manirakiza.
Le président Muhammadu Buhari a décrété l'interdiction de tout mouvement à partir de lundi soir et pendant au moins 14 jours dans les états de Lagos et Abuja. Le Nigeria rejoint ainsi l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Rwanda dans l'application radicale du confinement. Le président ougandais Yoweri Museveni a décrété hier un arrêt immédiat de toute circulation de véhicules et un couvre-feu nocturne. D'autres pays comme le Kenya, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont opté pour des mesures moins strictes, état d'urgence et couvre-feu. Au Congo-Brazzaville, qui se prépare lui aussi au confinement à partir de 20h, les habitants de la capitale se ruaient vers les supermarchés et boulangeries pour faire des provisions, mais aussi vers les gares routières pour rejoindre leur village. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi le déploiement dans le pays de 10 000 personnes chargées de repérer les personnes qui présentent les symptômes de la maladie. Après la Tanzanie, la Mauritanie a déclaré son premier décès du coronavirus, celui d'une franco-mauritanienne de 48 ans dont la contamination a été diagnostiquée après sa mort. Le continent compte encore 6 pays officiellement épargnés, le Burundi, le Soudan du Sud, Sao Tomé et Principe, le Malawi, le Lesotho et les Comores.
La police kényane affirme avoir ouvert une enquête sur la mort par balle d'un adolescent de 13 ans. Un agent est accusé d'avoir ouvert le feu sur lui dans une opération visant à faire respecter le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Des habitants du bidonville où l'incident s'est produit ont indiqué que des affrontements ont éclaté après 19h lorsque des policiers ont tenté de forcer les populations à rentrer dans leur maison.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis sont le pays avec le plus grand nombre de cas confirmés, plus de 164 600 personnes touchées par le coronavirus. Le pays a enregistré 3170 morts et plus de 5700 guérisons jusqu'ici. Près de trois quarts des Américains vivent désormais confinés. Nathalie Barche.
Un navire hôpital de 1000 lits est arrivé à New York, épicentre de l'épidémie avec plus de 59 000 cas confirmés. Des hôpitaux provisoires ont été érigés sous des tentes à Central Park. Dans le Maryland, 67 pensionnaires d'une maison de retraite ont été testés positifs. Le gouverneur Larry Hogan a évoqué un scénario du pire. Cet État ainsi que la Virginie et Washington D.C. ont publié des ordres de confinement obligatoires. Une mesure similaire est entrée en vigueur en Floride, où le gouverneur refuse le débarquement du paquebot Zandam, transportant 4 morts et des dizaines de personnes malades, et envisage de faire monter des secours à bord. Le président Donald Trump a annoncé l'envoi en Italie de matériel médical en surplus pour un montant de 100 millions de dollars. Il a promis des respirateurs artificiels pour d'autres pays européens très touchés.
Le bilan de la pandémie du nouveau coronavirus s'est de nouveau alourdi ce mardi avec près de 38 000 morts dans le monde, le cap des 11 000 morts franchis en Italie et 849 nouveaux décès enregistrés en 24 heures en Espagne. En résumé des derniers développements avec Jacques Aristide.
Le Covid-19 continue ses ravages sur une planète pourtant largement confinée. L'Espagne a battu aujourd'hui son triste record de morts par jour. Deuxième pays le plus endeuillé avec 8189 à décès. L'Espagne a interdit les cérémonies funéraires, limitant à 3 le nombre de participants à un enterrement. En Italie, le confinement commence à produire des résultats encourageants après 3 semaines. Pour autant, les 60 millions d'Italiens devront patienter au moins jusqu'à Pâques, le 12 avril, date à laquelle le confinement a été prolongé. Les ministres des Finances du G20 doivent se réunir ce mardi par visioconférence pour apporter une réponse à cette crise mondiale. Région la plus touchée par la pandémie, l'Europe a toutefois affiché sa solidarité en livrant du matériel médical à l'Iran, pays durement frappé avec environ 2900 morts. Plus de 3,6 milliards de personnes, soit 46,5% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles. La plupart doivent respecter un confinement obligatoire. Les autres sont soumises à des couvre-feux dans des villes en quarantaine.
Le premier ministre russe a ordonné le recours aux données des opérateurs téléphoniques pour contrôler le respect des mesures de confinement mises en place en Russie, en particulier à Moscou, principal foyer de l'épidémie de coronavirus. À Moscou, la capitale, où un confinement est imposé à l'ensemble de la population depuis lundi, le maire a ordonné de faire de même pour les 12 millions d'habitants officiellement recensés. De nombreux sites touristiques de Shanghai qui avaient rouvert mi-mars ont de nouveau fermé leurs portes, illustrant la peur d'une seconde vague épidémique en Chine. Le nombre de nouvelles contaminations par le Covid-19 a fortement baissé ces dernières semaines en Chine, pays où le coronavirus a fait son apparition fin 2019. Plusieurs sites de la capitale économique chinoise en ont profité pour ouvrir leurs portes au public dès la mi-mars, notamment les gratte-ciels comme la tour de Shanghai, deuxième du monde avec ses 632 mètres. Ce mardi, les 48 nouveaux cas de contamination sont tous importés selon les chiffres du ministère chinois de la Santé. L'épidémie a fait plus de 3300 morts dans le pays. Une nouvelle étude chinoise menée dans un hôpital de Wuhan évoque le potentiel de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le nouveau coronavirus. Après 5 jours de traitement, les patients du groupe ayant reçu de l'hydroxychloroquine présentaient un bilan nettement meilleur concernant la pneumonie. Les symptômes de fièvre et de toux se sont également atténués plus rapidement dans le groupe traité. Toutefois, l'étude n'est pas encore revue par un comité de lecture scientifique. En Italie, une Sicilienne a été étranglée ce mardi par son compagnon, une féminicide qui ravive les inquiétudes pour les femmes victimes de violences, contraintes à une cohabitation forcée induite par le confinement. Le crime s'est produit à Forcé-Sicilio dans le département de Messine et c'est son auteur qui a appelé les carabiniers pour se dénoncer selon les médias italiens. La victime et son meurtrier étaient tous étudiants en médecine. Selon le recteur de l'université où étudiait le couple, cette tragédie est liée à la situation de crise que vit l'Italie en ce moment. Les experts avaient mis en garde contre le risque que la cohabitation forcée n'accentue les conflits familiaux. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
En République démocratique du Congo, les prix des produits alimentaires et des fournitures essentielles ont doublé, voire triplé, après l'annonce des premières mesures contre le COVID-19 par le président Félix Tshisekedi. Le gouvernement a reporté la décision de confinement total qui devait commencer samedi dernier à Kinshasa. Le Bénin ne dispose pas des moyens des pays riches pour prendre des mesures de confinement strictes dans la lutte contre la propagation du coronavirus, a déclaré le président Patrice Talon. Pour accompagner les réductions de mobilité ou les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains ont même recours à la planche à billets pour prévenir le chaos socio-économique, a déclaré M. Talon. Au Bénin, seuls les transports en commun sont suspendus à partir du 30 mars dans 8 grandes zones urbaines, dont Cotonou, et seront entourés d'un cordon sanitaire. Pour terminer, en Angola, le Fonds souverain pourrait débloquer un total de 1,5 milliard de dollars afin d'aider le pays à affronter la crise. La production pétrolière angolaise, qui fournit la majeure partie des fonds publics, devrait tomber à 1,36 million de barils par jour. Le prix des diamants, une autre ressource de l'Angola, a chuté à 100,30 dollars contre 162 dollars le carat, a déclaré Davès de Souza, la ministre angolaise des Finances.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La nouvelle est tombée hier. Les Jeux olympiques de Tokyo reportés auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre de la même année. Ainsi en ont décidé le Comité international olympique et le comité d'organisation japonais. Certains athlètes avaient demandé ce report, d'autres par contre en sont déçus, à l'image du Béninois Pleven Nkatin, qualifié pour l'épreuve d'aviron.
Pour moi, c'est un coup dur parce que ça fait beaucoup plus de 4 ans que je me prépare pour cet objectif. On était vraiment arrivé très proche de l'échéance. Donc toute la logistique, l'organisation et la préparation physique pour être au top niveau en juillet 2020 étaient vraiment finalisées.
D'après l'athlète béninois, le plus dur reste à venir.
La difficulté, c'est qu'il va falloir travailler pendant encore un an, un peu plus d'un an, chose qui n'était pas, qui est pas facile, hein. Ça fait plus de 365 jours, donc plus de 700 entraînements à réaliser. C'est quelque chose de compliqué. Puis après, il va falloir retrouver des fonds et des sponsors. Aujourd'hui, j'ai des sponsors d'entreprises béninoises, mais il va falloir encore trouver des sponsors pour finaliser toute l'année de préparation. Très fier de courir sous mes couleurs et les couleurs du Bénin. Donc la fierté l'emporte. Et puis, il va falloir repartir simplement.
Pleven Nkatin, athlète béninois au micro d'Élisée Mpatine, notre correspondant au Bénin. En basketball, Joey Nyang s'est excusé après un malentendu dans un hôtel chinois. L'ancien basketteur des Indiana Pacers, qui évolue à Nankin en Chine, s'est engagé à respecter les règles de confinement après ce qu'il considère comme un malentendu dans un hôtel chinois où il est placé en isolement. Des médias chinois ont publié une série de SMS dans lesquels l'ancien meneur arrière de la NBA et un ami ont demandé qu'on leur apporte de la nourriture et de l'eau en pleine nuit, menaçant de le faire eux-mêmes s'ils devaient patienter. L'attitude du basketteur a provoqué un mécontentement sur les réseaux sociaux chinois où certaines personnes ont demandé son renvoi vers les États-Unis. En boxe, Joey Saunders a été suspendu par la Fédération anglaise de boxe professionnelle après une vidéo dans laquelle il expliquait comment frapper sa compagne. En période de confinement, le boxeur britannique de 30 ans avait diffusé sur les réseaux sociaux un enregistrement de lui devant un sac de frappe où il montrait comment la frapper au menton et la mettre KO, des propos qui ont entraîné sa suspension provisoire par le British Boxing Board of Control. En attendant son audition, après des excuses, le boxeur a promis de donner 25 000 livres à des associations de lutte contre ces violences. Pour finir, nous gardons en mémoire l'ancien attaquant ghanéen Opoku Afrié, décédé dimanche à l'âge de 75 ans. Il a été l'auteur des deux buts face à l'Ouganda lors de la finale de la CAN 1978 remportée par les Black Stars à Accra.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les États-Unis sont le pays avec le plus grand nombre de cas confirmés, soit près de 160 000 personnes touchées par le coronavirus. Sur le terrain, les personnels soignants travaillent sans relâche pour apporter les soins nécessaires aux patients. Nathalie Barge a rejoint le docteur Sona Konaté, médecin épidémiologiste à Cheverly, dans l'état du Maryland, où les cas montent en flèche.
Les mesures de prévention adaptées pour le coronavirus, c'est qu'il faut suivre les normes spécifiées par l'Organisation mondiale de la santé et par le CDC en ce qui concerne les États-Unis, c'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle la distance sociale, le social distancing, rester éloigné de ses pairs, d'autres individus, d'au moins 6 pieds, et aussi de laver les mains de manière constante. On croit que les modes de transmission aussi se sont aussi par le toucher, par le contact direct de gouttes salivaires, donc laver les mains et aussi se couvrir le visage et aussi la toux en cas d'accès de toux, voilà, pour protéger aussi son entourage.
Alors, quelle est la dangerosité du virus? Est-ce que l'on en sait un petit peu plus? Là, on peut voir dans le monde que l'on emploie des moyens de protection encore plus drastiques que pour Ebola.
Voilà, Nathalie, très très bonne question. En fait, le coronavirus, c'est une inconnue. On l'appelle nouvel coronavirus parce qu'en fait, c'est un virus qui n'a jamais infecté l'espèce humaine jusque-là. Donc, tous les scientifiques, tous les laboratoires du monde sont en train d'apprendre en même temps l'évolution de ce virus. On ne sait pas, c'est une inconnue. Et donc, c'est très compliqué parce qu'en fait, personne ne sait exactement la virulence et le taux d'infectiosité de ce virus. Bon, on croit que 14 jours, c'est le temps d'incubation, mais on ne sait vraiment pas. Et donc, et plus, ça c'est de ma pratique quotidienne sur le terrain, objectif, plus on avance, plus on découvre de nouveaux symptômes et plus on découvre de nouveaux comportements de ce virus-là chez nos malades.
Alors, quelle est la progression de la maladie au niveau local et régional? Vous êtes dans le Maryland, dans le comté de Prince George. Comment cette maladie évolue-t-elle?
Tous les services qui ne sont pas reconnus essentiels ont fermé. Nous sommes la seule unité qui sommes encore ouverts dans le département ici de la santé. C'est pour vous dire comment le service de la santé d'abord essaye de protéger d'abord les travailleurs aussi qui viennent et qui sont exposés. Et donc, c'est très compliqué. Il y a quelques 2 semaines, on n'avait que 3 cas. Et là, on est monté à 10 cas. Et aujourd'hui, on est presque à 300 cas, juste pour ce comté, qui n'est qu'une infime partie du Maryland et une infime partie des États-Unis. Et ça augmente de manière exponentielle, je vous dis. Donc c'est très très sérieux et aussi on essaie de protéger les patients et aussi les travailleurs. Parce que nous qui sommes sur le terrain, il faut qu'on travaille, il faut qu'on on prévienne l'évolution de cette maladie-là, qui est très 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 virulente. Donc c'est pour cela qu'on fait très attention, on a des mesures spéciales qu'on a instaurées. Chaque matin, pour chaque travailleur, on prend les températures à la rentrée du bureau. Et il y a aussi une infirmière qui se promène dans tous les couloirs et s'assure que personne n'a des symptômes particuliers et personne ne tousse ou personne n'a des symptômes qui peuvent être synonymes de risque pour les travailleurs et aussi pour les patients aussi qui sont là.
Alors, les moyens de guérison, autant que possible, hein, est-ce que vous avez le cas de patients gravement atteints qui ont guéri?
Nathalie, c'est difficile, c'est très très triste à dire. Avant-hier soir, j'ai perdu un de mes patients. Ça m'a fait mal parce que vraiment, il commençait à aller mieux. Je parlais avec lui il y a une semaine. Il m'a dit que, écoute, Sona, je dois arrêter l'interview parce que je me sens pas bien. Je suis à bout de souffle. J'ai dit, OK, quand vous avez un peu plus de temps, je vous appelle. Après, je l'appelle le lendemain. Il a dû être transporté aux urgences parce qu'il avait des difficultés respiratoires. Et je vous parle de quelqu'un de 49 ans qui était en très, très, très bonne santé. Les urgences médicales sont submergées. On est en manque de ventilateurs.
Le docteur Sona Konate rejoint dans le Maryland, tout près de la capitale américaine. L'est de la RDC touché à son tour par le COVID-19. Après Kinshasa, l'Ituri et Bukavu, la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, enregistre son premier cas confirmé ce mardi. À Goma, le gouverneur de province a fait l'annonce en même temps que plusieurs mesures de prévention. Dans les rues de Goma, c'est la psychose et la peur de la famine pour les familles qui n'ont pas réussi à faire des provisions alimentaires. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, nous donne les détails. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, nous donne les détails.
Le gouverneur du Nord Kivu, qui a confirmé la nouvelle, indique que d'autres cas suspects contact du premier cas ont été placés en observation. Karlin Zanzoukasivita avait déjà isolé Goma de Bukavu, qui a enregistré des cas depuis lundi. Le gouverneur Karlin Zanzou.
Nous avons beaucoup de cas qui sont mis à quarantaine et pour lesquels nous avions envoyé des échantillons. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en alerte. Et c'est le premier cas, mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait plus. À partir de demain, il n'y aura pas de bateaux qui vont prendre les personnes de Goma jusqu'à Bukavu. Et ça, c'est une des mesures pour contrôler les flux migratoires ou bien le déplacement de la population entre provinces.
Les cas confirmés de Goma est un sujet nigérien de 44 ans qui travaille dans une organisation humanitaire à Goma. Il s'est présenté le 23 mars à l'hôpital, présenta des signes comme la toux et douleur thoracique. Il a été aussitôt mis en isolement selon le gouverneur. Depuis les premiers cas enregistrés en RDC, Goma a remis à jour presque toutes les mesures préventives prises pendant la riposte contre Ebola. Au marché, seuls les commerçants des produits de première nécessité sont autorisés, mais en respectant la distanciation entre vendeurs et clients. Avec la fermeture de la frontière entre la RDC et le Rwanda, plusieurs produits importés via les ports de Dar es Salaam ont grimpé des prix sur les marchés au Nord Kivu, ce qui met à mal plusieurs familles n'ayant pas les moyens pour faire des provisions. John Awazi et Fora Béatrice partagent leurs inquiétudes.
Il faut sortir pour faire quelque chose et revenir avec quelque chose à la maison. Et quand on doit dire à cette personne-là de rester un mois, deux semaines, bon, ce ne sera plus le corona qui va tuer ces gens, ça risquera d'être la fin. Et donc, où est-ce qu'on sortira l'argent pour acheter des masques, des gants et consorts? C'est ça la difficulté que nous avons. Donc, il y a d'énormes difficultés.
Moi j'ai peur avec cette maladie. Je n'ai pas à manger chez moi. Ma marchandise de 5 dollars ne réussira pas à me garder. Et au marché, tous les prix ont été majorés. Donc nous qui n'avions pas les moyens, nous allons facilement mourir de cette maladie. Si un jour le gouvernement nous dit de rester tous à la maison, il devrait aussi nous donner quelque chose pour se nourrir.
La mission des Nations Unies en RDC promet d'accompagner la province sur les plans logistiques dans la riposte contre le COVID-19. Le Nord Kivu est à moitié préparé car les mêmes installations sanitaires utilisées pour l'isolement des malades d'Ebola serviront pour les cas de COVID-19. Lundi, l'INRB a rapporté 17 nouveaux cas de COVID-19, dont un cas à Goma et 16 à Kinshasa. L'équimile est de 98 cas, dont 8 décès sur l'ensemble du pays. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, les taxis ont été sommés de rouler désormais avec 3 passagers à bord au lieu de 4, voire 5 auparavant. Néanmoins, le prix imposé aux passagers est resté inchangé, ainsi que celui du carburant. Les chauffeurs de taxi grincent les dents au même titre que les Camerounais à faible revenu. Emmanuel Jultap nous en dit plus.
Wilfried est chauffeur de taxi à Yaoundé. Depuis quelques jours, comme cet après-midi, son taxi de 5 places n'a plus que le droit de transporter 3 passagers à bord afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Une restriction qui a fait chuter ses recettes journalières. Wilfried Ndioku, chauffeur de taxi.
La recette s'est divisée en 2, parfois même moins. Moi aujourd'hui, je suis sorti à 6 heures. À l'heure actuelle, je suis à 8 000 francs. CFA. Or avant, à l'heure-ci, j'étais déjà à 15 000.
Le prix officiel du taxi au Cameroun est de 250 francs CFA, négociable parfois à la baisse selon la distance. Malgré eux, les clients payent désormais le juste prix, voire un peu plus, pour vite se déplacer. À l'instar de Francine Ngono, élève au lycée de Mbala 2 à Yaoundé.
Quitter Mbala 2 et Mana, je payais avant 100 francs. Maintenant, je suis obligée de donner peut-être 200 ou 150 pour arriver à Emana en taxi.
Jackson Kwayeb, commerçant à Yaoundé, subit lui aussi les désagréments qu'impose désormais la distance sociale dans les taxis au Cameroun.
Nous avons mis plus de 20 minutes sur place pour chercher un taxi qui va nous amener. Au point, nous avons été obligés d'augmenter les enchères pour pouvoir essayer de trouver un taxi abordable.
Le Cameroun compte déjà plus de 190 cas confirmés de COVID-19 selon le ministère de la Santé publique. Au cours d'une réunion restreinte dimanche dernier avec les gouverneurs et les autorités administratives des régions où des cas de nouveau coronavirus ont été recensés, le gouvernement a annoncé le maintien des mesures de restriction dans le transport public. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale.
Les mesures doivent être appliquées pour l'intérêt général. Le premier chef de loi a insisté qu'il y avait encore beaucoup de... que les gens hésitaient. Donc c'est des mesures sanitaires pour nous tous. Et si on accompagne le gouvernement dans ce combat, nous allons venir à bout de cette pandémie qui est planétaire.
Cependant, l'un des syndicats de transport le plus influent du Cameroun demande des mesures d'accompagnement pour les transporteurs. Collègue Sndefo Soken, président du syndicat national des employés des transports du secteur terrestre.
Tous les syndicats sont réunis de transport pour saisir le Premier ministre, pour lui demander de baisser les prix du carburant pour permettre, n'est-ce pas, aux transporteurs de supporter, n'est-ce pas, cette difficulté que nous vivons tous.
Le prix d'un litre de carburant à la pompe varie entre 575 et 630 francs CFA. Les chauffeurs de taxi font en moyenne une recette journalière de 10 000 francs CFA. Si le gouvernement ne revoit pas à la baisse le prix des carburants, les syndicats des transports ont annoncé pour le 6 avril prochain une grève dans leur secteur d'activité. Emmanuel Junta, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le nouveau coronavirus qui affecte le monde a offert aux pêcheurs kenyans une aubaine. C'est la ruée des clients qui veulent éviter le poisson congelé importé de Chine pour se diriger vers le poisson frais pêché du lac Victoria. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Comme d'autres pêcheurs, Maurice Missoudi, 38 ans, a connu un mois record. Sur la rive du lac Victoria, consommateurs et revendeurs de poissons locaux s'arrachent chaque poisson capturé par Maurice et ses collègues. Les pêcheurs sourient maintenant dans la région du lac Victoria parce que nous recevons plus de visiteurs. En ce moment, Dunga est vraiment bondé de monde avec beaucoup d'habitants de Kisumu qui viennent acheter du poisson frais parce que les gens craignent les poissons chinois à cause du coronavirus. Avec la présence du coronavirus, les personnes qui vendent du poisson de Chine sont désavantagées car pour le moment, elles ne sont pas en mesure de faire leurs affaires. Et moi, en tant que personne qui vend le poisson du lac, j'ai maintenant l'avantage de vendre du poisson au prix que je veux. En 2018, le Kenya a importé du poisson congelé de Chine pour 23,2 millions de dollars, selon le Centre de commerce international. Depuis longtemps, les pêcheurs se plaignaient de ces importations bon marché qui étranglent le commerce local. L'urgence sanitaire mondiale liée au nouveau coronavirus a donné un coup de pouce aux pêcheurs locaux car les importations chinoises ont ralenti et les clients sont obligés de se tourner vers le poisson local, même s'il coûte plus cher. Un kilo de poisson de la Chine coûte 150 shillings kenyans, tandis que celui des poissons d'eau douce du lac Victoria coûte 300 shillings. C'est donc un problème. Et maintenant que nous avons le coronavirus au Kenya, et à mesure que la maladie s'intensifie, nous venons ici à Dunga pour obtenir du poisson frais, pour manger et ne pas tomber malade. Ils sont en mesure d'amener leur poisson parce qu'il y a un vide qu'ils comblent, ce qui signifie que si à l'avenir nous ne sommes pas en mesure d'obtenir du poisson de l'extérieur, il restera un vide qui devra être comblé et le poisson se fera rare car nous n'obtenons pas suffisamment de poisson, ce qui est susceptible d'affecter les prix. L'unité de gestion de Dunga Beach a confirmé que les ventes ont augmenté en mars. La plage enregistre une capture comprise entre 1 et 1,5 tonnes de poissons par jour et les ventes sont passées de 50% à 90% au cours des deux dernières semaines.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Georges Léonard Sagno, Michel Joseph et Josel Morissin. Restez en contact avec nous. Restez en contact sur notre page Facebook et sur notre site voafrique.com. Excellente soirée. Au revoir.